Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency.
Il est 9h22 sur Sud Radio jusqu'à 10h. Nous parlons de votre logement, si tant est que vous arriviez à vous en procurer un. On parlera peut-être du ministre du logement, si tant est que nous arrivions à nous en procurer un aussi. On verra s'il est annoncé aujourd'hui ou demain. Bonjour Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous.
Fondateur de Radio IMO, on vous retrouve tous les samedis sur Sud Radio au programme aujourd'hui.
Voilà, on va être ravis de vous parler encore une fois d'immobilier. Effectivement, vous l'avez dit Jean-Marie, difficultés d'accès au logement. On va parler du domaine locatif avec un grand professionnel et des difficultés encore d'accès au marché de la location. Nous allons recevoir Olivier Safar, le président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris.
Et puis on répond aux questions que nous ont posées nos auditeurs sur le standard de Sud Radio, sur le répondeur plus précisément 0826 300 300 parce que l'immobilier, ça vous concerne. On va parler de...
L'emprunt des seniors, qui est un vrai sujet.
Est-ce qu'on peut emprunter...
on fait quand on arrive à la retraite, ouais, qu'on a fini de payer sa maison, qu'on veut réemprunter? Eh bien, c'est la croix et la bannière, c'est bien le sujet du jour.
Eh bien, on verra ça, on terminera par un tour de France des biens à acheter un petit peu partout. Mais avant ça, les infos de la semaine à retenir avec Grégoire Daricot. Bonjour Grégoire.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
Bonjour Grégoire, on va commencer cette semaine par une bonne nouvelle pour les indépendants.
Ah ben ça
et
change.
Oui. Et oui Sylvain, oui Jean-Marie, on commence par un gros, un beau, un entraînant alléluia. Louange au CIC, en l'occurrence, pour une fois qu'une banque fait les choses bien, on peut la citer. Le CIC a lancé un nouveau prêt cette semaine, un prêt destiné aux 60% des Français qui ne sont pas en CDI. On parle ici de 4 millions d'actifs qui sont freelance, intérimaires, saisonniers, intermittents du spectacle. Et parmi cette part de la population, seulement 46% sont propriétaires. C'est bien peu.
Alors pourquoi il était difficile, finalement si difficile, d'emprunter sans un CDI?
Eh bien les critères d'admission, Sylvain, pour un dossier hors CDI sont plus drastiques. Les banques pouvaient prêter de l'argent si vous étiez indépendant, mais il vous fallait un dossier en béton armé, pour reprendre vos propos de la semaine dernière. On pouvait avoir un dossier qui passait en CDI et qui pouvait ne pas passer si vous étiez en CDD. Le CDI était progressivement devenu le critère d'obtention du prêt immobilier. Et l'offre du CIC, elle tombe à pic puisqu'elle permet même de moduler ses mensualités en fonction de vos revenus qui peuvent fluctuer si vous êtes indépendant, par définition. Les échéances de remboursement aussi peuvent diminuer ou augmenter de plus ou moins 50% sur 1 à 4 mois, une fois par an, sans frais ni justificatif.
Alors si je vous écoute bien, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les indépendants.
Ouais, c'est une très bonne nouvelle, Sylvain. Une bonne nouvelle aussi que les conditions s'assouplissent un peu. Une bonne nouvelle aussi parce que la France compte de plus en plus de travailleurs indépendants, plus de 4 millions d'actifs, c'est ce que je vous ai dit en début de journal. Un chiffre qu'a communiqué l'URSSAF récemment. L'organisme a communiqué aussi sur des revenus des indépendants qui sont en hausse. Et pour votre parfaite information, sachez qu'entre 2009 et 2020, le nombre de freelances a augmenté de 92% en France. Une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter si l'on en croit les projections faites sur les années à venir.
Après l'emprunt, Grégoire, on va nous parler d'impôts.
Oui, Sylvain. Comme des millions de Français, vous avez peut-être reçu la douloureuse, je veux bien évidemment parler de l'avis d'imposition, parce que, disons-le clairement, ça fait mal. Et je vous propose une solution pour alléger la note et surtout les reliquats d'impôts sur le revenu qui vous reste à régler, ainsi que, pour les plus fortunés d'entre vous, l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Il existe des solutions pour alléger votre fiscalité et l'une d'elles est l'investissement dans une foncière solidaire avant la fin 2024.
Ah ben, on va tous se poser la question, qu'est-ce qu'une foncière solidaire, Grégoire?
Alors vous vous en souvenez peut-être, Sylvain, Jean-Marie, on avait parlé de ce thème la saison dernière. Pour rappel, il s'agit de permettre aux ménages les plus modestes d'accéder à la propriété. En fait, ce dispositif repose sur la dissociation du bâti, c'est-à-dire les murs, et du foncier, donc le terrain. L'organisme de foncier solidaire dans lequel vous pouvez investir est propriétaire du foncier, tandis que l'acquéreur détient le droit d'usage du bâti, un moyen de faire baisser en fait les prix d'acquisition. Sachez que c'est une vraie tendance qui se dessine, alors que de plus en plus de Français souhaitent donner du sens à leur placement, à leur épargne. Les encours sous gestion de placement solidaire, qui allient rendement, sens et gain fiscal, ont d'ailleurs bondi de 15% en 2023. En souscrivant à des titres d'une foncière solidaire, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% du montant versé, un montant qui est pris en compte dans la limite de 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour des contribuables en couple. Attention toutefois, vous devez conserver vos parts pendant 7 ans au risque de vous exposer à un redressement fiscal. Parmi les établissements que vous pouvez trouver, citons la foncière Esus, dirigée par Mathieu Gerchou, le cofondateur de la start-up Vasco que nous avions reçu sur notre plateau.
Alors direction le marché de l'immobilier, ancien maintenant Grégoire, avec des prix qui continuent de baisser, est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Alors, c'est l'indice notaire INSEE qui vient d'être publié et les prix d'ancien effectivement continuent de baisser. Une baisse des prix qui s'est tout de même atténuée au deuxième trimestre 2024 à moins 0,5% après une première baisse de moins 1,5% au premier trimestre 2024 et moins 1,8% au quatrième trimestre 2023. Si l'on regarde sur un an, cette fois, une baisse de 4,9% d'après l'indice notaire INSEE et surtout 4 trimestres consécutifs de baisse. Le problème, c'est que cette baisse ne rime pas du tout avec une hausse des transactions. Le nombre de transactions réalisées dans l'ancien au cours des 12 derniers mois est estimé à 792 000, un recul qui a débuté fin septembre 2021 et qui ne s'est quasiment pas arrêté depuis.
Alors, à propos d'ancien, on va parler d'une vente insolite, on va dire plus que singulière.
Oui, Sylvain, et un petit coup de gueule même pour la vente à Biarritz d'un appartement de 68 mètres carrés pour 3 millions d'euros. Alors, un appartement bien situé, c'est dans la fameuse Villa Belsa, vous savez, ce monument emblématique si souvent présent sur les cartes postales de la ville.
Oui, enfin...
C'est énorme. C'est la fameuse villa de style néo-médiéval qui est située entre le Rocher de la Vierge et la célèbre Côte des Basques. Il n'empêche qu'avec cette vente, on atteint des sommets à 45 220 euros le mètre carré dans une ville connue pour la difficulté à s'y loger.
C'est
une vente qui est totalement irrationnelle, je suis d'accord avec vous Jean-Marie, qui ne représente pas, heureusement, la politique menée par la ville contre la location saisonnière. Une politique qui a commencé à porter ses fruits et un marché qui se rééquilibre petit à petit.
Allez, 3 millions d'euros pour 60 mètres carrés.
Tout à fait. On achète plus l'emplacement et la vue que le logement.
Mais c'est un scandale. C'est un scandale, vraiment. Vous savez combien vous avez de Basques qui ne trouvent pas de logement,
c'est
des jeunes Basques?
Ah oui.
C'est lamentable. Bref, allez, restez avec nous sur Sud Radio à suivre. On parle IMO, toujours avec Sylvain Lévy-Valency. Au programme ce matin, vous recevez votre invité.
On va recevoir Olivier Safer, le président de Nice, Grand Paris et Île-de-France. Et on va évoquer les difficultés d'accès au marché de la location.
Et ben, vous voyez, c'est difficile. Bon, on essaiera peut-être d'en trouver à Biarritz, on verra. À tout de suite.
Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency.
Jusqu'à 10h, nous parlons de votre logement avec le fondateur de Radio IMO, Sylvain Lévy-Valency, et son invité.
Merci Jean-Marie. Bonjour Olivier Safer.
Bonjour à tous.
Vous êtes le président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. Vous êtes un syndicat majeur en France et vous représentez aujourd'hui un cinquième de la population française en Île-de-France. Vous regroupez quasiment tous les métiers de l'immobilier. Et je vous propose, Olivier, avec vous, de faire un focus sur les difficultés graves que vivent les Français sur l'accès au marché locatif. Si je vous demandais, là, comme ça, spontanément, de faire un constat quelques semaines après la rentrée.
Quelques semaines après la rentrée, toujours le marasme, la crise, et on ne voit pas aujourd'hui de sortie telle qu'on l'imaginait après des Jeux Olympiques qui ont été extraordinaires. Je le dis, pourquoi ? Parce qu'on s'attendait, nous, à un redémarrage de l'activité avec des produits qui seraient sur le marché pour pouvoir les offrir à nos clients. Or, aujourd'hui, quand on a 1, 2, 3, 4, 5 appartements à louer, c'est peu, et derrière, on a en moyenne 50 candidats par dossier. Et ça, c'est un choix qui est quand même un peu violent.
Alors, avec la pénurie de biens loués, on a vu pour une offre à la location, il y a 400-500 appels, ben, ça commence à devenir vraiment délirant. Il y a de plus en plus de candidats, quand on les interroge, ils sont prêts à tricher en falsifiant leurs documents dans leur dossier. Le bulletin de salaire, l'avis d'imposition, bien sûr, il faut pas le faire, mais pourquoi c'est loin d'être une bonne idée? Il faut vraiment dissuader les candidats de le faire.
Alors, il faut dissuader les candidats de le faire parce que nous sommes là pour vérifier justement tous ces points-là. Et je rappelle qu'aujourd'hui, il y a des plateformes spécifiques, on ne va pas faire de publicité pour celles-là, pour vérifier effectivement que les dossiers sont corrects, que les déclarations d'impôts sont bien les bonnes et de la bonne personne, que la fiche de paye correspond bien évidemment à la personne que l'on a en face de nous. Vous dire qu'on a eu des exemples où on a eu des fiches de paye, des fiches de paye falsifiés, dans lequel effectivement ils avaient pris un magnifique salaire d'une personne, sauf qu'ils avaient oublié de modifier le numéro de sécurité sociale, et j'avais un 1 à la place d'un 2, alors que c'était une femme. Vous savez que les numéros de sécu, 1 c'est homme, 2 c'est femme au début, là c'était pas modifié, donc on lui a posé gentiment la question de savoir si c'était un transsexuel ou changement de sexe. Bien évidemment, la personne s'est levée et est partie tout de suite du bureau.
Bien sûr, alors, mais évidemment, on le dit à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est une très très mauvaise idée, parce que vous avez des outils qui permettent de détecter la fraude.
Oui. Ces outils, c'est les impôts. Aujourd'hui, vous avez une déclaration d'impôt, on a accès, on sait si c'est la bonne personne, on sait si ce sont les bons revenus. Derrière, c'est toute la partie des feuilles de paye. Je vous cache pas que quand on a un doute, on prend notre téléphone et on appelle les employeurs. Dans certains cas, on va se retrouver avec un employeur qui dit « Ah bah oui, il travaille chez nous !» Mais et on essaie de savoir à quel service, si elle est directrice, si elle est responsable, rien du tout. On a des réponses, mais complètement abracadabrantesque, on va dire les choses comme ça.
Alors, on le voit, c'est une Alors, bien évidemment, on l'excuse pas du tout, mais on peut comprendre le mécanisme qui pousse au désespoir d'aller jusqu'à Salvi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans le statut des candidats une mauvaise considération qui est prise par les administrateurs de biens que vous connaissez bien? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi à mener une réflexion? On en parlait tout à l'heure avec Grégoire dans le journal. On a des banques qui se sont adaptées en faisant du crédit à des personnes qui sont des intermittents du spectacle, qui sont des freelances. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de mieux considérer ceux qui accèdent à la location?
Alors, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, quand vous avez 50 dossiers qui sont à peu près corrects, vous allez choisir quelqu'un qui est en CDI plutôt que quelqu'un qui est en CDD, quelqu'un qui est en poste depuis déjà 3 ou 4 ans plutôt que quelqu'un qui vient de démarrer en période d'essai. Donc ça, ce sont des choix que l'on va faire pour rassurer nos propriétaires et les clients.
Mais bien sûr.
Et ça, c'est une
difficulté. Qu'est-ce qu'on fait toute cette population qui n'arrive pas à se loger? Les jeunes actifs arrivent en ville et ils renoncent à leur emploi parce qu'ils peuvent pas se loger. 12% des étudiants ont affirmé avoir renoncé à leurs études. Bah, ça commence vraiment à devenir compliqué quand même.
Alors c'est très compliqué, mais je vous rappelle que c'est le résultat d'une crise immobilière que l'on a aujourd'hui, qui vient effectivement de l'absence de construction neuve ou de réhabilitation d'immeubles. Et ça, c'est une difficulté. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'on est dans un cercle. Ce cercle, au lieu d'être vertueux, il est vicieux. C'est-à-dire que vous ne faites pas de neuf, vous allez plus avoir de locataires qui étaient effectivement bien dans leur appartement, qui vont acheter un autre appartement parce qu'ils sont très heureux.
Vous voulez dire qu'ils vont naturellement vers l'ancien?
Ils vont naturellement, voilà. Et derrière, bah, vous avez une évolution où celui qui était dans le 2 pièces va prendre le 3 pièces, celui qui était dans un studio va prendre le 2 pièces. Aujourd'hui, on a arrêté ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de biens en location.
On va essayer d'être un peu positif, mais pas évident, mais on va essayer quand même. Hein, on est coaché par Jean-Marie, donc ça va bien.
C'est gentil.
Alors, Paris-Toulouse, ce sont deux métropoles qui font face à une pénurie sans précédent. Mais c'est historique.
Ah, c'est colossal.
Je crois qu'on n'a même pas de comparaison sur la pénurie des étudiants. Quelles sont les pistes à explorer pour trouver des logements? Je vous pose la question, parce qu'on voit naître un peu partout de la colocation, du co-living, des meubles alternatifs. Est-ce que c'est le retour du colcos fleuri en ville ou quoi?
Alors le colcos, pas du tout. On va être très clair là-dessus.
Enfin, le retour du colcos, vous parliez comme si vous aviez grandi en URSS, Sylvain. Faut quand même pas charrier.
On en parlait à l'époque.
Non, c'est tout un moment de la vie de Sylvain Lévy-Valency qu'on ne connaît pas.
Mais voilà, bien sûr.
Non, mais les choses aujourd'hui, la colocation est très développée. Le problème de la colocation, c'est qu'aujourd'hui, il faut des garanties à chaque fois de chaque colocataire. Les choses de colocation, on le connaît. C'est l'évolution.
Il y a des boîtes spécialistes de ça.
Oui, il y a des boîtes spécialistes.
Des mécanismes de sûreté et de garantie.
On est bien d'accord. Mais la seule chose, c'est que ça fait peur. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une colocation, vous savez qu'au bout d'un an, vous en avez un des trois colocataires, par exemple, qui va changer et il va être remplacé par un autre, et ainsi de suite. La seule chose, c'est qu'à chaque fois, il faut revérifier la totalité des garanties, refaire le bail en totalité, puisque ce ne sont plus les mêmes colocataires. Je rappelle que quand ils signent le bail, ils sont conjoints et solidaires. Même si on a une caution, même si on a une garantie. Et donc à chaque fois, c'est refaire le bail, refaire les différents points.
C'est une bonne idée.
Mais c'est une idée importante.
Et le co-living, vous y êtes favorable?
Alors, le système de co-living, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la transformation la plupart du temps d'anciens locaux industriels ou de bureaux en habitation pour faire du co-living. Pourquoi? Parce que le problème, c'est un problème de permis de construire. Vous pouvez pas faire de co-living obligatoirement dans de l'habitation parce que vous devez transformer vos locaux. Et ça, ça existe dans certains endroits, notamment avec toute une partie on va dire, étudiants ou de jeunes rentrant sur le marché du travail. Mais après ça, ça sort, on modifie les choses.
On va parler politique, et vous avez été l'un des hommes politiques syndicaux hein, dans le métier, à être pas tendre du tout avec le président de la République. Vous avez dit, vous l'avez dit sur l'antenne de Radio Immo, vous l'avez dit un peu partout, Michel Barnier va nommer un sixième ministre du logement. Et on sait déjà...
Sixième en combien de temps?
En 2 ans.
En 2 ans.
Alors, c'est du jamais vu là aussi. Notre président bien-aimé a battu tous les records. Alors, Michel Barnier va nommer un sixième ministre du logement au bout de 5 gouvernements, en sachant qu'on sait déjà, Olivier Sappard, que ce sera pas un ministre de plein exercice. Il y en a 16 de plein exercice. Mmh. Sur les 38 nommés, on sait que le logement ne sera pas une priorité en l'État, puisque on saurait déjà en l'État si c'était un ministre de plein exercice. Comment vous le vivez?
Mal. Comme les années précédentes, il faut dire les choses. Aujourd'hui, le logement est un point très important pour tous nos concitoyens. et il est mis de côté par le gouvernement depuis déjà pratiquement 7 ans. Et je trouve ça anormal. Pourquoi ? Parce que des points importants, ils sont là. On le sait, à l'époque, on disait quand le bâtiment va et l'immobilier va, tout va dans le pays. Aujourd'hui, on le sait très bien, le construction, ça va pas du tout, le bâtiment, on le sait, l'immobilier, encore moins. Donc on est aujourd'hui dans une crise d'abord de confiance, mais une crise d'activité, et on va avoir une difficulté à redémarrer. C'est-à-dire, plus la crise dure longtemps, plus le redémarrage va être difficile. Et c'est ce que l'on craint aujourd'hui.
Alors justement, qu'est-ce qu'il faut espérer alors?
Il faut espérer que...
C'est quoi le remont? Parce que il y a 2 700 000 Français qui sont mal logés. Il y a 4 millions de personnes qui vivent en état de précarité. Il y a un vrai sujet, là.
Il y a un vrai sujet, il y a une vraie réalité. Le rebond, c'est baisser les taux d'intérêt pour le rachat, ce qui est le cas. Ça a été fait jeudi dernier par la BCE, tant mieux.
Mais on voit pas trop les effets.
On voit rien, pourquoi ? Parce que baisser les taux est une chose, mais baisser la demande d'apport n'existe pas. Ils ont dit qu'ils baissaient l'apport de 35 à 25%. Aujourd'hui, quand vous regardez les différents dossiers, on est au-dessus de 30 dans la plupart des dossiers. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il faut comprendre que l'apport, ce n'est pas obligatoirement 30 ou 35% de la valeur de l'achat de l'appartement qui a augmenté, qui ne baisse pas suffisamment. Le deuxième point, vous l'avez compris, c'est la baisse des prix. Mais baisse des prix de 3, 4, 5%, ce n'est pas suffisant pour faire redémarrer les choses.
C'est très clair. À suivre, Jean-Marie.
Merci beaucoup, Sylvain Lévy-Valency. On va peut-être remercier votre invité quand
même. Absolument. Merci, Olivier Safar. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris et on vous suit régulièrement sur les médias.
Allez, restez.
Merci de m'avoir reçu en tout cas et j'espère qu'on va avancer vers un redémarrage de l'activité immobilière parce qu'elle va nous permettre de redémarrer la France entière.
Bon, en attendant, on va vous laisser remplir et signer votre état des lieux de sortie de ce studio. Et puis on se retrouve dans quelques instants en compagnie de Sylvain Lévy-Valency, 0826 300 300. Vous êtes nombreux à nous appeler toute la semaine et à nous laisser vos messages, à poser vos questions, notamment sur le répondeur de Sud Radio. Question aujourd'hui, est-ce que je peux emprunter encore quand je suis un senior? La réponse dans quelques instants.
Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency.
Sylvain Lévy-Valency, toujours de bonne humeur, n'est-ce pas Sylvain, comme tous les samedis?
Toujours.
On parle de votre logement, on essaie de vous remonter le moral, c'est pas facile d'en trouver. C'est pas facile aussi de trouver les moyens de se procurer des nouveaux logements. Tiens, tout de suite, on va écouter le répondeur de Sud Radio.
Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente
Sud Radio. Parlons Immo, ça vous concerne.
Il y a beaucoup de questions qui vous concernent et ce sont celles que vous nous posez sur le répondeur de Sud Radio. Il s'agit de crédit aujourd'hui, mon cher Sylvain.
Absolument. On va s'intéresser, si vous voulez bien Jean-Marie, à une question qui nous est posée et de plus en plus nombreuses ces questions-là. C'est l'emprunt des seniors. Comme vous le savez, le nombre de personnes et le vieillissement de la population est un vrai sujet et l'emprunt des seniors est une question qui nous a été posée d'ailleurs avec Grégoire sur le répondeur de Sud Radio. C'est Jean et sa femme Mireille qui nous ont écrit.
Oui, Jean et Mireille, en fait, ils nous ont laissé un message. Ils sont tous jeunes retraités, ils ont 65 ans tous les deux, ils viennent de déménager. Après plusieurs années passées en région parisienne, ça y est, ils ont décidé de quitter la grisaille pour le soleil de la Côte d'Azur. Franchement, personne ne les jugera pour cette décision qui paraît pleine de bon sens. Et vous l'avez compris, on va parler d'emprunt des plus de 60 ans, une situation qui ne concerne personne sur ce plateau. Mais forcément, avec ce changement de vie vient le changement de logement. Ils étaient propriétaires.
Ça approche.
Oui, non, oui. C'est dans pas longtemps, mais ça ne concerne personne encore. Ils étaient propriétaires, ils vendent donc leur appartement et veulent acheter. Ils ont un apport et se rendent bien compte des difficultés pour les seniors à emprunter de l'argent correctement. Donc j'ai décidé d'appeler un expert pour nous aider à y voir plus clair. Et pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Rouessé. Vous êtes CEO de Arago. Bonjour Alexis.
Bonjour Grégoire, Sylvain et Olivier. Oui, je suis CEO d'Arago et heureux d'être avec vous.
Mais bienvenue sur Sud Radio en tout cas.
Alors Alexis, est-ce que vous pouvez nous présenter Arago en quelques mots s'il vous plaît?
Oui, Arago c'est une entreprise régulée qui construit et distribue des produits financiers innovants. On s'adresse principalement à des publics qui sont tenus à l'écart du système bancaire traditionnel. En premier lieu, on s'occupe des retraités avec une offre prêt bancaire destinée aux plus de 60 ans.
Alors justement, est-ce que on peut voir avec vous la situation de l'emprunt des seniors dans notre pays en 2024 ? Concrètement, jusqu'à quel âge on peut emprunter de l'argent pour acheter un logement ?
Alors, comme vous l'avez dit, la situation est intéressante. Ils étaient 5 millions de retraités en 81, 17 millions aujourd'hui, 23 millions en 2050.
Waouh !
Et les seniors ont beaucoup de projets, heureusement, et plein de besoins. Il y a 60% 20% qui estiment que leur pension ne suffira pas pour vivre correctement à la retraite. Donc, et ils peuvent, on va le dire clairement, pratiquement pas emprunter. En fait, officiellement, il n'y a pas de limite d'âge pour emprunter.
Oui.
Dans les faits, c'est différent.
Mais évidemment, parce que l'espérance de vie est plus limitée quand on a un âge avancé. À partir de là, bah, il faudra rembourser beaucoup plus et beaucoup plus vite, quoi.
Puis ça coûte surtout beaucoup plus cher.
Exactement. En fait, les banques attendent un remboursement final vers 75-85 ans. Donc, bah, c'est simple, ça vous laisse peu de temps pour rembourser. Et en plus, il y a le problème de l'assurance. Donc, à 60 ans, c'est compliqué. À 65 ans, c'est très difficile. Après 75 ans, c'est pratiquement impossible, sauf pour ceux qui ont beaucoup de moyens.
Alors justement, cher Arago, vous proposez le prêt 60. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors le prêt 60, c'est assez simple. On prête entre 50 000 euros et 1 million aux emprunteurs qui mettent en garantie un bien immobilier dont ils sont et ils restent propriétaires.
Mais attendez, excusez-moi, vous parlez d'un crédit hypothécaire là ?
C'est à peu près ça, mais pas totalement.
Alors expliquez-nous pour qu'on comprenne bien.
Il y a une grosse différence, c'est qu'en fait, il n'y a pas de remboursement de mensualité obligatoire jusqu'au décès. En revanche, il y a des intérêts, mais comme ils ne sont pas payés tous les mois, ils s'additionnent progressivement au capital emprunté. Donc, en fait, ça change tout par rapport à tous les autres prêts, c'est que ce n'est pas en fonction des revenus, il n'y a pas de problème de questionnaire santé, il n'y a pas d'assurance. Ouais.
Mon cher monsieur, on va être très prosaïque pour nos auditeurs. Jean et Marie ont posé une question précise. On va prendre un exemple. J'ai une maison que j'ai amortie qui vaut 400 000 euros.
Oui.
J'ai besoin d'emprunter 350 000 euros.
C'est beaucoup pour nous.
D'accord, ok. Bon, j'emprunte, on va dire combien ? 150 000 euros ?
Oui, exactement.
Bon, 150 000 euros, et je rembourse quand exactement, là ?
Quand vous voulez.
Attendez.
Et vous ne le décidez pas au début, vous le décidez quand vous voulez.
Mais attendez, comment
c'est
vous
bizarre,
vivez
comme
Oui. Pardonnez-moi, mon cher, mais j'ai...
Faut pas donner autant de largesse à Sylvain Lévy-Valency, je vous assure. Oh, hein, si vous lui donnez tout le choix des armes... C'est un bon négociateur. Donc comment ça se passe ? Reprenons l'exemple.
Voilà. Comment ça se passe ? On reprend l'exemple. Donc, on vous prête 150 000 euros.
Ouais.
Là-dessus, en fait, vous n'avez aucune mensualité, aucun remboursement
d'accord.
obligatoire. Et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, évidemment.
D'accord, mais je rembourse quand alors ?
En fait, ça se rembourse au plus tard, au moment de la succession.
Est-ce que plus je rembourse tard, moins je rembourse cher ou pas ?
Non, mais vous remboursez quand vous êtes mort, là.
Mais oui, on a compris, oui.
Au moment de la succession.
En fait, c'est ça.
En fait, vous
avez une table de mortalité, et vous visez le décès de vos clients, et puis vous vous remboursez sur l'hypothèque ou sur le bien. Parce qu'en fait, vous ne prêtez que si la personne a amorti un bien.
Exactement.
Donc quand vous me dites quand vous voulez, c'est quand je veux bien mourir, si j'ai bien compris.
Oui, mais le point important, c'est que nous, on n'a pas d'intérêt à que vous mouriez vite.
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Si vous mourrez au bout de 15 jours, moi, c'est plus 15 jours d'intérêt. J'ai bossé comme un âne pour 15 jours d'intérêt. Même pour le pensier de base.
Olivier Sapard voulait intervenir.
Moi, j'ai une question toute simple. Est-ce qu'on peut le proposer à des gens qui ont moins de 60 ans ? Parce qu'aujourd'hui, si ça nous permettrait de redémarrer l'activité immobilière et le rachat, là, on est volontaire.
Alors, on va prendre l'exemple classique de notre cher jeune Calmant. Moins de 60 ans, on va dire 50 ans. Ben, ça va faire un prêt de 73 ans. C'est un peu dur pour nous, là.
écoutez.
Ça va faire un peu long, mais ça va être vachement plus compliqué pour les gens plus jeunes. C'est pour ça qu'on propose 60 ans. On pourrait le faire. Mais en fait, c'est...
Mais c'est compliqué.
On va prêter un tout petit montant. On n'est pas serein avec ça, quoi.
Merci en tout cas pour cet éclairage. Et j'ai le regret de vous dire qu'on arrive au bout de l'espérance de vie de cette interview. En tout cas, merci à vous.
On
rappelle que vous êtes le CEO
de Arago.
Exactement. Tout de suite, je vous propose de faire le tour de France, ou plutôt dans quelques instants.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Massif.fr.
Et tout de suite, le Tour de France, précisément. On voyage, on visite, on achète, on essaye d'acheter ?
Absolument, on va essayer d'acheter, on va faire le Tour de France des biens immobiliers, les biens coup de cœur de la rédaction, direction la Seine-Saint-Denis, et ensuite on va aller un peu plus dans le sud, n'est-ce pas Grégoire ?
Tout à fait Sylvain, on commence donc par la région parisienne, vous venez de le dire, une ville qui respire bon le sport et le football. Bienvenue à Bondy, capitale française du foot depuis la naissance de Kylian Mbappé, William Saliba, Randall Colomwany, etc. et tant d'autres. C'est une maison très sympa que je vous ai trouvée, une maison de 70 mètres carrés sur un terrain de 279 mètres carrés, avec donc un grand jardin. Une maison qui comprend une grande véranda, un séjour, une cuisine, une chambre et une salle d'eau. Et sur le terrain, qui est assez grand, vous avez également une autre maison plus petite qui comprend, elle, une pièce de vie avec coin cuisine, une douche, des WC et un garage. Une maison assez bien située dans Bondy, non loin des commerces de proximité. Une belle opportunité qui vous est proposée au tarif de 388 000 euros par l'agence La Forêt.
On continue le tour de France, on visite deuxième bien à acheter.
Oui, deuxième bien, on va prendre la cité des Corsaires.
C'est beau,
bienvenue à La Rochelle. Tout à fait.
Alors non, pour moi c'est Saint-Malo, désolé. Ah, ce sera toujours Saint-Malo. Okay. Les Corsaires, c'est Saint-Malo. Il y a eu Dunkerque à une époque, mais c'est Saint-Malo.
Il y en a eu quelques-uns quand même à La Rochelle, Jean-Marie. Et là, c'est un petit appartement très charmant que vous avez dégoté, non loin du marché, un appartement dans un esprit loft, nous dit l'annonce. Il est situé au deuxième étage d'une petite copropriété de bon standing. Il comprend un séjour lumineux sur une cour intérieure, une vaste chambre avec dressing et salle de bain privative. Un appartement qui a un diagnostic de performance énergétique de D et très sympa et qui est proposé au tarif de 249 250 euros par l'agence Orpi.
Mais vous voyez qu'on est mieux à La Rochelle qu'à Biarritz, mon cher Grégoire. Merci Grégoire Daricot, merci à tous nos invités. Merci également à Sylvain Lévy-Valency. Cette émission sera rediffusée mardi prochain à midi sur
Radio Immo, l'application et toutes les plateformes d'écoute.
Exactement, on peut la réécouter en podcast sur sudradio.fr ou sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Je vous dis à samedi prochain, mon cher Sylvain.
Avec grand plaisir Jean-Marie et bonne semaine à tous.
Merci.
Sud Radio, parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.